Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDIWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotope, une émission réalisée conjointement par RDIWA et Radio Saint-Ferréol pour le compte de BioVallée et qui retrace les initiatives prises par des citoyens, des institutions, des associations et des entreprises pour faire en sorte que cette vallée de la Drôme soit la plus bio possible. Aujourd'hui, on va aborder le thème « Comment cultiver sans pesticides ?» avec comme invité Jean-Marie Verdet, qui non seulement est agriculteur du côté de Saint-Romand, et aussi qui a eu une formation médicale qui peut-être nous sera d'une certaine utilité sur ce sujet difficile. On va commencer d'ailleurs par écouter un témoignage d'une victime des pesticides que je vous invite à écouter présentement. Monsieur Jean-Marie Bonny, qui se trouve présentement d'ailleurs sur un lit en train de se faire dialyser. Monsieur Bonny, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tout simplement vous pourriez nous raconter votre histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé et dans quel cadre?
J'ai eu deux cancers, avec un en 93 qui était un polype cancéreux qui ne m'a pas empêché de reprendre le travail. Et le deuxième a été découvert au contrôle du premier, c'est-à-dire en janvier 2002.
Vous pouvez faire le lien avec les pesticides?
Il a été fait au niveau de la médecine. Puisque quand je suis tombé malade du deuxième cancer, on m'a questionné, on m'a demandé ce que j'avais fait de ma vie pour voir ce que j'avais eu. Et le professeur aussi, responsable de l'hématologie à Montpellier, m'a dit, mais puisque c'est des pesticides que vous avez manipulés et tout, moi je vous conseille de vous inquiéter, d'ouvrir un dossier de reconnaissance. Et là on était après les chimios, c'est-à-dire en fin de l'année 2002.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que vous faisiez comme métier, monsieur Bonny?
J'étais gérant gérant ou responsable de secteur, c'est pareil, d'une coopérative agricole d'approvisionnement. Donc, ce qui nous a obligés à beaucoup manipuler de pesticides, à savoir divers emballages, et notamment, bien avant que la présentation des produits change, avant, on avait des sacs qui étaient cousus, donc avec des produits en poudre, et qui sortait pas mal de ces coutures, justement, au moment de la manipulation. C'est-à-dire quand on les recevait des fourgons, des camions, pour les arranger pour les stocker dans le dépôt, ou pour les reprendre quand il fallait les distribuer avec les camions, ou les mettre dans les voitures pour les agriculteurs. Ensuite, il y avait aussi des placements sur le terrain pour aller voir les petites bêtes ou les maladies. Et là, on conseillait tel ou tel produit aux agriculteurs. Et il y a même des produits qu'on a mis en essai directement en plein champ. Donc, on allait voir aussi les résultats de ces essais, c'est-à-dire un contact direct.
Et donc, vos médecins hématologues à Montpellier ont bien fait la connexion entre les pesticides et vos cancers?
Moi, je n'étais pas trop convaincu, parce que j'ai quand même accusé le coup quand on m'a dit tout ça. Et si j'ai été convaincu, c'est parce qu'on m'a convaincu, quoi. Parce que le lien qui existe entre les matières actives des produits et la maladie, c'est le benzène. Sauf que le benzène n'apparaît pas sur les étiquettes. Alors, il y a un problème de lecture des étiquettes, justement, par rapport aux matières actives, que les agriculteurs, parfois, ne savent pas trop, quoi.
Depuis ces événements qui ont affecté votre vie, est-ce que vous avez l'impression qu'une prise de conscience a eu lieu et que la manipulation de ces produits est
moi,
plus pro-questionneuse?
Le diagnostic est tombé il y a 10 ans. Donc moi, il y a 10 ans, j'avais des chimios. On m'a demandé d'arrêter, j'avais 54 ans, on m'a demandé d'arrêter la vie professionnelle. C'était quand même une décision très sérieuse. Et la chimio, 10 ans après, on m'aura bousillé les reins. Et c'est pour ça que je me retrouve en dialyse. Par contre, pour répondre à votre question, il y a 10 ans, je pense que les utilisateurs, les agriculteurs, etc., n'avaient pas forcément l'idée que ça pouvait être autant dangereux que ce qu'on en parle de plus en plus. Si on en parle de plus en plus, justement, c'est à cause de la littérature scientifique qui n'arrête pas d'alerter. Donc la médecine aura été prévenante de ce côté-là.
Donc à votre avis, les us commencent à changer quand même. Les us et coutumes d'usage des pesticides, ça
oui,
commence à venir.
Il faut reconnaître au bout d'un certain temps.
Et vous êtes en colère, vous, présentement, sur cette inertie des pouvoirs publics ?
Plutôt, oui, bien sûr.
Et donc, vous faites partie de cette association Phytovictimes pour défendre vos droits ?
J'ai rejoint, donc, effectivement, dans le cheminement de ce fameux dossier, j'ai rejoint une association, sachant qu'il allait se créer quelque chose. C'était au mois de janvier 2010. J'ai rejoint des gens qui se retrouvaient à Poitiers. Et bien sûr, le premier du chef, c'est Paul François, qui avait, lui, attaqué déjà une démarche contre Monsanto. Donc l'association s'est créée, parce qu'entre-temps, il y a eu un décès, justement à cause des produits d'un ami de M. Paul François, Yannick Chenet. L'association s'est créée officiellement en avril 2011. Une quarantaine de personnes au moment de la création. Et maintenant, on peut parler de 150 personnes qui n'hésitent pas à venir nous rejoindre ou nous contacter sur la France entière.
D'accord.
Monsieur Bonny, en espérant que votre état de santé s'améliore, vous êtes optimiste quand même, malgré tout ?
Optimiste, je l'ai toujours été. Mais il faut reconnaître que c'est des arrêts physiques et de vie qui bousculent. Parce que déjà, le fait d'avoir deux cancers, ça fait réfléchir énormément. Et voilà, bon, et moi je me retrouve dans cette situation.
Mais en tout cas, vous êtes très courageux de vous exprimer sur ce sujet.
Je peux laisser un petit appel.
Je vous en prie.
C'est qu'il ne faut pas que les gens se cachent ou ne disent rien dès qu'il y a quelque chose qui couvre. Au contraire, il faut qu'ils aillent de l'avant et qu'ils n'hésitent pas à se manifester parce que c'est des maladies qui sont longues à s'installer. Et je souhaite à personne des cheminements que l'on aura rencontrés, quoi. Donc il y a effectivement une association de Phytovictimes qui est là pour aider les gens, et en tout point, sur le plan médical, sur le plan juridique, sur le plan information technique ou scientifique, avec maintenant plein d'appui, puisqu'on a un avocat qui est M. François Lafort du cabinet Tessonnière à Paris, dont un bureau vient de s'ouvrir depuis un an à peu près à Marseille. Et tout ça permet de pouvoir se défendre et pouvoir réagir assez rapidement.
Pour les auditeurs, je mettrai un lien sur la page de l'émission sur les dangers des pesticides et comment cultiver sans pesticides.
Il faut mettre aussi l'adresse mail de l'association.
Je mettrai tout ça sur cette page, monsieur Bonny.
Avec le numéro de téléphone.
Il n'y a pas de problème. Monsieur Bonny, merci de votre témoignage et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci. Au revoir.
Monsieur Verdet, bonjour, j'ai oublié de vous dire bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, ce témoignage ?
Eh bien, ça m'inspire comme réaction qu'il est drôlement intéressant de voir que des personnes commencent à oser prendre la parole. Ça n'a pas toujours été le cas. D'un point de vue médical, on peut remarquer que ce monsieur a vraiment eu la double peine. La double peine, il a eu à la fois les problèmes liés aux pesticides agricoles, mais il a eu aussi la dure pénalité de subir les conséquences de sa chimio, qui pour moi sont aussi des pesticides mais médicaux. Et le fait qu'il ait plus de reins lié à sa chimio, qui était là censé lui traiter son cancer, eh ben, c'est vraiment, enfin, c'est grave, quoi.
Pour en revenir aux pesticides, c'est vrai que c'est bien que de nos jours, il y a quand même une vraie conscience qui émerge de nos jours. Et il serait temps, quand on pense par exemple, je pense au tonnage produit par les abeilles qui est en chute libre, il serait temps que les pouvoirs publics réagissent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette inertie des autorités sanitaires ?
Ben moi, je pense qu'on ne peut pas compter sur eux. Il est clair que c'est à nous à faire le travail, à nous tous. C'est intéressant que ça émerge. Quand je disais, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me suis installé en 88. À ce moment-là, la toxicité des pesticides était vraiment niée. Au moins, on nous disait que les pesticides dangereux étaient interdits et que tous ceux qui restaient sur le marché, c'était des produits qui n'avaient aucune conséquence. Donc, on pouvait y aller tranquille. Vous disiez tout à l'heure, j'ai une formation médicale. J'ai eu la possibilité de travailler pendant un an comme interne dans un centre d'hématocancérologie. Et j'ai eu à soigner des agriculteurs qui avaient des leucémies et qui étaient clairement des leucémies induites par leur travail. Et en discutant avec les médecins responsables de ce centre, ils me disaient que pour eux, il était déjà clairement admis que le lindane entraînait des leucémies. Et quand je me suis rapproché du monde agricole, je me suis rendu compte que le lindane continue à être utilisé, continue à être autorisé. Et quand j'essayais de dire, mais du côté médical, on le sait que ça induit des leucémies. Oh non, 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 non. Donc il y a toujours ce décalage entre ce que les médecins sur le terrain constatent, ce qu'ils osent dire, et ce que l'on continue à autoriser. Et ce décalage, il est dramatique pour beaucoup de victimes, quoi.
Et alors c'est quoi ? C'est le poids des lobbies industrialo pharmaceutiques ?
Il y a sûrement un peu de ça. Il y a sûrement pas mal d'inertie au niveau des politiques qui, des fois, prennent pas toujours la mesure de l'importance de certaines décisions. Il y a le fait que c'est plus long d'interdire quelque chose et il y a moins de moyens pour interdire quelque chose qu'il n'y en a pour introduire une nouvelle molécule. Quand un fabricant a envie de mettre un produit sur le marché, lui, il sait que ça va lui rapporter des sous, donc il force, il paye, il finance tous les tests pour autoriser son produit. Quand il faut l'interdire, il faut au contraire, il n'y a pas de moyens en face, il n'y a pas de moyens financiers. Donc c'est à tout le monde d'apporter sa petite preuve, d'apporter ses... Et la démarche est souvent difficile et longue.
Alors, si on prenait la chose de façon plus positive, est-ce que vous pourriez nous faire une petite liste à la Prévert, plutôt exhaustive, de toutes les raisons qui pourraient nous conduire à abandonner les pesticides ?
Oh là là, elle va être longue. Déjà, dans un premier temps, ces produits sont dangereux. Leur dangerosité a été niée, maintenant, elle est reconnue. Donc, d'un point de vue de l'utilisateur, ce produit est dangereux. Actuellement, on met des tas de mesures en place, obligation de porter des masques, obligation d'avoir des combinaisons de protection, obligation de recycler les eaux de lavage de cuivre, enfin des tas de mesures qui sont mises en place pour que la dangerosité de ces produits n'ait pas de conséquences. Bon, les produits sont dangereux, ben, s'ils sont dangereux, on pourrait peut-être essayer de s'en passer, quoi. Premier point. Deuxième point, la dangerosité, elle est pour l'utilisateur, mais elle est aussi pour l'environnement. Il est clair qu'au niveau de l'environnement, l'usage des pesticides est assez catastrophique. Il est catastrophique d'un point de vue de la biodiversité, biodiversité au niveau des plantes liées à l'usage des herbicides, biodiversité au niveau des insectes avec l'usage de tous les insecticides. Le cas du problème des abeilles et de la chute de la production de miel, c'est quelque chose qui est flagrant et qui a l'avantage d'interpeller tout le monde du coup. Donc tout le monde ouvre les yeux. Et dernière raison, c'est au niveau de la santé du sol. Je participais récemment à un colloque sur l'humus et le sol. Si on veut que le sol fonctionne correctement et qu'il soit capable de transformer la matière organique qu'on lui apporte en humus, qui du coup lui est vraiment utile, il faut que ce sol soit vivant. Et pour que ce sol soit vivant, il faut plus qu'il y reçoive de pesticides.
D'accord, alors maintenant passons à la partie concrète de cette émission. Vous êtes agriculteur, vous êtes convaincu, alors comment faire pour cultiver sans pesticides, parce que les propagateurs des pesticides disaient qu'il y avait un certain nombre d'avantages. Vous n'aviez pas toute cette petite bête et toute cette prolifération animale qui attaquait vos cultures. Alors comment faire pour se passer de pesticides ?
J'aurais du mal à donner une recette, on va dire, une panacée, une recette qui marche pour tout le monde, parce que chaque cas, chaque agriculteur, chaque parcelle a son histoire, a son passif. Et du coup, c'est des... pas simple de trouver une recette qui marche pour tout le monde. La première étape pour aller vers une agriculture sans pesticides, c'est déjà d'être convaincu qu'il est important de s'en passer. Il faut que l'agriculteur soit convaincu que c'est un objectif, que c'est un objectif à atteindre. Moi, je fais souvent le parallèle avec la médecine. Comment être en bonne santé sans médicaments ? Bon, ben voilà, on peut faire le parallèle. L'objectif, c'est d'être en bonne santé sans médicaments. Des fois, c'est impossible. Des fois, il y a certaines maladies. Des fois, on a atteint une étape pour laquelle se passer de médicaments va être une démarche longue et difficile. Des fois, c'est plus simple. Si on est parti d'une situation moins compliquée, eh ben, il est plus facile de se dire « Ok, bon, ben, c'est bon, je me débrouille maintenant. » Et puis, il est réel qu'il y a des cultures qui sont plus faciles à un retour sans pesticides. Plus les cultures ont reçu des pesticides depuis longtemps, plus elles auront du mal à faire marche arrière.
Vous avez quelques exemples en tête ?
L'arbo, c'est le pire. L'arboriculture. Tout le monde sait que pour faire une pomme, il faut une quantité, 10, 12 traitements ou produits différents. La vigne, c'est aussi compliqué. Les plantes pérennes, les plantes qui restent d'une année sur l'autre, généralement, c'est plus difficile que les plantes annuelles. Après, les céréales, c'est assez simple de se passer de pesticides pour les céréales. C'est encore plus simple pour tout ce qui est fourrage, légumineuses. Voilà. Plus la plante a encore l'habitude d'être autonome, plus ce sera simple de la sevrer de ses pesticides.
Bon, ceci dit, même si c'est compliqué de me faire une réponse simple, j'ai bien compris. Ça fait donc depuis je ne sais combien de temps, que vous pratiquez une agriculture sans pesticides ?
Alors moi, je me suis installé en 88, donc dès le début, j'avais l'idée de cultiver toute la ferme dont je m'occupe en bio. Mais c'est vrai que sur cette ferme, j'avais 5 hectares de pommiers et je ne suis pas passé en bio sur les pommiers tout de suite. J'ai attendu 2-3 ans. Mais dès le début, je me suis interdit tout ce qui était désherbant et engrais chimiques. C'est parce que c'était une volonté de ma part, ça. Et c'est, on va dire, en 92-93 que je suis passé en bio, même sur les vergers, mais avec l'utilisation de pesticides bio. Le terme peut paraître un peu choquant, mais pour moi, il y a des produits bio qu'on peut classer dans la catégorie des pesticides.
Et qui seraient moins pires pour l'environnement ?
Ah, j'en sais rien. Parce que l'insecticide que j'utilisais en bio sur mes pommiers contre le puceron s'appelait la roténone. Il avait un avantage, c'est qu'il avait une durée de vie très courte, donc il n'y avait pas de résidus, pas de ce qu'on appelle la rémanence, hein, pas de résidus pour l'environnement. Mais par contre, il avait l'inconvénient de ne pas être sélectif du tout. Donc quand on pulvérise la roténone dans un verger, on tue tous les insectes qui sont présents dans le verger à ce moment-là. Alors on peut se méfier, on fait attention, on l'utilise le soir, la nuit, enfin bon, histoire qu'il n'y ait pas trop d'abeilles, pas trop... Et puis on se dit que dès que le soleil va arriver, il va dégrader la roténone, donc les abeilles ne vont pas trop souffrir. Mais quand même, il y a des insectes utiles dans le verger. Si on tue tout le monde, c'est pas sain, quoi. Voilà, roténone, qui pour moi est un pesticide bio, qui est maintenant interdit, mais que j'ai beaucoup utilisé. Et j'ai senti physiquement des problèmes. Mais on peut mettre d'autres pesticides. Le cuivre. Le cuivre, c'est un antifongique, donc c'est un fongicide. Donc c'est encore un cide. Donc moi, je le classe encore dans la catégorie des pesticides. Donc on peut être en bio, on peut respecter le cahier des charges bio et continuer à être une démarche d'utilisation de pesticides.
J'y reviens à la charge. Comment faites-vous pour ne pas utiliser de pesticides ?
Alors, bon, ben voilà, du coup, ça va être plus un témoignage. Pour les vergers. La solution n'est pas encore... on va mettre ça un petit peu de côté, je reviendrai par la suite. Pour toutes les autres cultures que je fais, c'est donc légumineuses, fourrage, luzerne, sainfoin et du blé. Il y a, on va dire, 6-7 ans, j'ai pris la décision, c'est presque un coup de tête. Moi, j'ai plongé, quoi. J'ai dit, ça suffit maintenant, plus aucun pesticide ni engrais du commerce. Je me suis dit, plus d'intrants pour mes cultures. Et ça a pu être fait parce qu'il y avait plusieurs années de réflexion, de travail sur la rotation des cultures, sur l'apport de compost, sur l'absence de désherbants, l'absence d'utilisation de produits. Donc l'important, quand on veut comme ça se lancer dans une culture sans pesticides, il faut en amont travailler l'état du sol, tout faire pour avoir un sol le plus vivant possible. Mais quand je dis vivant, c'est avec beaucoup de micro-organismes présents. Et puis avoir des cultures qui ne soient pas toujours les mêmes, histoire que le déchet d'une culture est utile, sert de nourriture à la culture suivante, enfin voilà quoi. On arrive du coup à avoir quelque chose d'un peu équilibré, qui sera en meilleure santé et qui du coup pourra pousser de façon autonome. Moi j'aime bien ce terme autonome, de se dire que les espèces vivantes qui nous nourrissent, elles ne sont pas sous assistance. On les aide à pousser, on les aide à grandir, on les aide à produire. Mais on n'est pas là pour... c'est pas de la culture hydroponique, c'est pas de la nourriture artificielle, c'est la vie qu'on stimule.
Donc c'est en favorisant une vraie biodiversité, on soigne le terrain.
On soigne le terrain, on s'occupe du terrain. Soigner, c'est déjà un acte de correction. Mais on peut très bien se dire qu'on s'occupe du terrain pour que le terrain soit favorable, soit propice. Il est plus facile d'être en bonne santé à la campagne qu'à la ville. Sauf qu'à la campagne, il ne faut pas être trop près des pulvérisateurs de pesticides, quoi.
Donc en fait, cultiver sans pesticides, il n'y a que cela comme secret, c'est juste que le terrain soit en bonne santé. Il n'y a pas d'autre truc.
Si, le truc dont je parlais qui me semble hyper important, c'est de ne pas faire qu'une seule culture. Hein, ce que je disais tout à l'heure, la rotation des cultures, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas se permettre de cultiver tout le temps la même chose au même endroit. Une culture va avoir tendance à prélever dans le sol toujours la même chose. Au bout d'un moment, le sol va manquer de ce que la culture a le plus besoin. Donc en faisant des rotations des cultures, les différentes cultures ne prélèvent pas les mêmes choses dans le sol. Donc une culture prélève quelque chose et elle relargue une autre. Donc quand on fait des rotations des cultures de façon intelligente et raisonnée, on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de carence qui s'installe dans le sol et que du coup les plantes qui poussent sont en meilleure santé et que du coup elles n'ont pas besoin de béquilles pour pousser. Au cours du Grenelle de l'environnement, il avait été posé la question au président de la FNSEA, qui est donc le syndicat majoritaire au niveau des agriculteurs. C'est plutôt, moi je dirais plutôt, c'est le syndicat des gros agriculteurs. Et il lui avait été posé la question, l'agriculture sans pesticides. Et il avait répondu clairement, c'est impossible. Enlever les pesticides à l'agriculture, c'est comme enlever ses antibiotiques à un malade. Et j'avais trouvé la réponse intéressante, parce que c'est d'abord reconnaître que l'agriculture qui a besoin des pesticides est malade, puisqu'elle a besoin de quelque chose pour continuer à fonctionner. Et deuxièmement, je trouvais un peu rapide ce raccourci qui vient nier la possibilité de se soigner autrement que par antibiotiques.
tout à l'heure, vous aviez écarté l'arboriculture et vous aviez même dit que c'était peut-être plus compliqué. Est-ce que quand même il y a des trucs particuliers à appliquer pour cultiver dans l'arboriculture sans pesticides ?
Au niveau arboriculture, pourquoi c'est compliqué ? C'est parce que depuis 50 ans, en gros, hein, je schématise, on a exigé une qualité de fruits quasi irréprochable. Le consommateur s'est habitué à avoir à sa disposition dans le commerce des fruits de qualité top. Pas une tache de tavelure, jamais un trou de verre, des gros fruits, enfin voilà. Et pour obtenir cette qualité irréprochable, eh ben on a mis à la disposition des agriculteurs un certain nombre de produits pour éliminer toutes les causes d'imperfection. Et la nature, elle est faite que la perfection, ça ne lui convient pas. Donc chaque fois qu'une méthode permettait d'obtenir cette perfection, de nouvelles maladies sont apparues. Et on a vu comme ça une espèce de construction, moi j'appelle ça, c'est comme une structure d'oignon, des couches. Hein. Une maladie, une réponse avec un produit chimique, ok, la maladie est contrôlée. Mais apparition d'une nouvelle maladie et du coup, apparition d'un deuxième produit chimique qui vient se rajouter au précédent puisqu'on ne veut pas que la première maladie réapparaisse. Et ainsi de suite, comme ça, on a créé toute une espèce de canevas, un magma de produits pour contrôler tout un ensemble de maladies pour continuer à obtenir cette qualité parfaite. Eh ben, si on veut se passer des produits, il faut redétricoter le tricot qui a été fabriqué. Donc il faut repasser par des étapes où on va dire, cette maladie, je ne la traite plus. Donc j'accepte pendant un certain temps qu'elle me pose des problèmes. Et puis je me rends compte que petit à petit, il y a un équilibre qui se crée. Je obtiens une qualité de fruit qui n'est pas parfaite, mais qui est intéressante. Mais il y a une nouvelle maladie, celle, on va dire, la N-1 qui réapparaît et ainsi de suite. Donc il faut avoir le temps, la patience, le courage et des fois les arbres, ils n'ont pas la force de supporter le détricotage du problème.
Et alors concrètement, dans vos arbres fruitiers, où est-ce que vous en êtes du processus de détricotage ?
Eh bien, j'ai clairement une maladie qui m'inquiète un peu parce que c'est une maladie qui est réputée être mortelle en 3 ans sur les pommiers. Une maladie où il y a l'écorce des arbres qui meurt. Donc j'ai beaucoup de bois morts en ce moment, beaucoup de pommiers qui ne sont vraiment pas beaux. Je ne sais pas si on tenir le coup. Mais j'ai pas envie d'arrêter l'expérience parce que c'est une expérience que je mène pour moi presque. Ce qui m'encourage, c'est que les arbres qui étaient les plus moches il y a 2-3 ans commencent à donner des signes de renaissance, de nouvelles pousses qui apparaissent, qui sont saines, qui ne sont indemnes de cette maladie. Et je me dis que les arbres qui étaient le plus moches il y a 2 ans, ils ne sont pas morts maintenant. Ils commencent à donner des signes de redémarrage. Ben, peut-être que ce stade dont je parlais, qui est un stade qui fait un peu peur parce qu'on a une qualité qui n'est pas terrible, peut-être que ce stade est passé. On peut être optimiste.
Je m'en veux, mais je vais quand même poser une question typique d'un matérialiste. Mais qu'en est-il des tonnages produits ? Est-ce que si on n'utilise plus de produits chimiques, des engrais et des pesticides, est-ce que les tonnages tombent ? Est-ce qu'on arrive à des tonnages
médiocres ? Moi, j'aime pas bien raisonner en termes de tonnes. Ça rime à rien. Pourquoi ? C'est vrai qu'un agriculteur, quand il y a la moissonneuse-batteuse qui passe dans son champ, il y a les voisins qui sont là, qui attendent la batteuse, et il lui dit « Alors, ça a coulé ?» Ça veut dire « Combien de bennes t'as rempli avec ton champ ?» Des trucs comme ça. Ça veut rien dire. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui reste ? Est-ce que ton champ te permet de vivre ? C'est pas « Est-ce que ça a coulé ?» Mais est-ce que si tu enlèves tout ce que t'a coûté la production, est-ce qu'il te reste quelque chose ? Et je dois dire que je vais plutôt prendre l'exemple du blé parce que c'est celui qui est le plus évident, c'est celui qui est le plus simple à obtenir et à rejoindre. Si j'enlève tout le prix des engrais que je n'utilise pas, le prix des traitements possibles, et ben la culture, c'est presque tout du bénéfice. La diminution de rendement est moins pénalisante que l'arrêt des produits. Donc globalement, je suis plutôt gagnant. Et là où je suis le plus gagnant, c'est que je disais que le tonnage, ça rime pas à grand-chose. Parce que ce qui est important quand on est agriculteur et qu'on s'intéresse à son sol, c'est la fertilité du sol. Et la fertilité, c'est pas ce qu'un sol est capable de produire avec l'agriculture conventionnelle. La fertilité d'un sol, c'est qu'est-ce qu'il serait capable de donner si on lui apporte rien, si on laisse les plantes pousser. Donc ce qui est important, c'est la fertilité naturelle du sol. Et là, je dois dire qu'avec une agriculture où on s'intéresse à le retour de l'humus dans le sol, on s'intéresse à la vie du sol, on s'intéresse à la rotation des cultures, eh bien, on se rend compte que petit à petit, la fertilité naturelle du sol augmente et la capacité du sol à produire sans qu'il soit sous assistance respiratoire, sous perfusion, eh bien, sa capacité à produire de la nourriture sans intrants, hein, les intrants, c'est pesticides et engrais. Des engrais aussi, je les classe dans les intrants. Mais sa capacité à produire sans intrants augmente d'année en année. Et ça, c'est drôlement motivant.
Eh bien, Monsieur Verdet, merci pour votre contribution. Ce que je vous propose, c'est de vous voir dans un an ou deux. Vous nous raconterez un peu où est-ce qu'en sont vos poignets. Ça m'intéresse. Et si ça m'intéresse souvent, ça intéresse les auditeurs. J'ai cette faiblesse de le croire. Donc, je vous remercie d'être passé pour témoigner de votre façon de cultiver sans pesticides. Et je vous souhaite une bonne journée.
Eh bien, à bientôt peut-être.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Pour compléter ce sujet sur comment cultiver sans pesticides, Gabriel Naudet, membre des jardins familiaux d'Audi, va nous transmettre son expérience puisque apparemment aux jardins familiaux d'Audi, on cultive aussi sans pesticides. Bonjour.
Bonjour. Oui, en effet, Louis, ouais, c'est inscrit dans la charte des jardins familiaux, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser de pesticides et de synthèse dans la culture, donc c'est ce qu'on fait en fait. Il y a différentes pratiques, mais on utilise éventuellement une petite pharmacie avec des traitements autorisés en bio qu'on nous propose, comme le phosphate de fer, le sulfate de cuivre, quoi, la bouillie bordelaise, ou le soufre, ou le savon noir. Mais sinon, on a d'autres techniques pour cultiver sans utiliser ce genre de traitement, en fait.
Est-ce que ça se manifeste avec des difficultés diverses, pas faciles à appréhender ?
Ça demande forcément plus d'observation. Il faut respecter certains principes. À partir du moment où on n'utilise pas de produits tout faits, on va essayer de favoriser la santé du sol, la santé des plantes et la biodiversité au jardin pour favoriser une santé générale. Et quand on est en bonne santé, on n'a pas trop d'attaques en fait. Donc des difficultés, ça va être surtout de prendre le temps d'observer, d'apprendre par l'expérience et par les transferts d'expérience. Mais sinon, c'est pas particulièrement compliqué.
Qu'est-ce que ça a changé en matière de méthode de travail ? Est-ce que ça a induit des coûts supplémentaires ?
Au contraire, moi je dirais que c'est plus économique parce qu'on n'a pas de produits à acheter dans le commerce. Ce qu'on peut faire en particulier, c'est respecter des rotations pour la santé du sol. Donc voilà, réfléchir, ça prend un peu de temps. On peut pratiquer le paillage aussi sur le sol, donc ça veut dire couvrir le sol avec des matières diverses. Et surtout, on peut les récupérer, ces matières, dans le jardin. On peut aussi s'arranger avec des voisins agriculteurs ou autres, récupérer de la paille. Ça peut avoir un petit coût, mais qui est minime. On peut fabriquer soi-même ces produits de traitement préventif ou curatif pour les plantes, comme des purins, des extraits fermentés de plantes, avec l'ortie, la consoude, la tanaisie ou la prêle, que là aussi on peut trouver gratuitement, qu'on peut ramasser, on fait soi-même. Puis penser à faire son compost, mettre du compost, apporter éventuellement du fumier composté. Donc ça aussi, on peut s'arranger. Parfois, on doit l'acheter, le fumier, mais parfois aussi, on peut le récupérer gratuitement en bonne entente.
Est-ce que ça ne demande pas plus de travail, par exemple, de binage, des fois ?
Il y a plusieurs façons de faire. Que ce soit en agriculture biologique ou pas, on peut biner ou pas biner. Alors, moi, personnellement, je pratique le non-travail du sol, c'est-à-dire que j'ai des planches permanentes. Et en plus, je couvre le sol et je travaille très, très peu. Et ça économise beaucoup de temps de travail et aussi de peine quoi, physique. Ou même d'argent, parce que quand on passe un motoculteur, c'est vrai que sur des grandes surfaces, on peut avoir envie, mais ça coûte aussi cher, ça coûte de l'essence et ça coûte du travail. Donc au contraire, non, c'est des pratiques qui vont permettre de préserver la vie du sol, des micro-organismes et des petites bêtes qu'il y a dans le sol, qui vont travailler à notre place, et donc ce sera moins fatigant.
Si tu devais donner une évaluation de cette méthode en termes de résultats, qu'en dirais-tu ?
Moi, je suis jardinière un peu novice, hein, donc j'ai pas 50 ans derrière moi de pratique. J'ai toujours fait comme ça, donc je pense que ça coûte moins cher, ça c'est sûr. Et puis il y a surtout cette joie de voir vraiment un environnement vivant, d'observer. On ne cultive pas que ces légumes, on produit pas que ces légumes, on produit aussi plein d'autres belles choses. Voilà, donc pour moi ça c'est inestimable et je pense que ça coûte moins cher aussi, vraiment.
Pour partage d'expérience, accepterais-tu de fournir des coordonnées ?
Je peux donner celle de l'animateur des jardins familiaux, Sylvain Lerouge, au 06 60 24 50 83.
Merci Gabriel. Au revoir.
Au revoir.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.